Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième module du guide du développeur pour Windows 10 sur les Universal Windows Platform, sur la Universal Windows Platform et sur les Universal Windows Applications. Pour être très précis, je m'appelle toujours Sébastien Pertus et je suis toujours Technical Evangelist et je suis toujours accompagné de JS.
De Jean-Sébastien Dupuis, voilà, toujours dans la même équipe, moi je crois que ça n'a pas changé. Voilà. Et nos Twitter, c'est toujours Sébastien Pertus pour toi et Dupuis JS pour moi.
Je ne sais pas si tu as regardé si on avait eu des
nouveaux tweets tout à l'heure. Je ne sais pas, faut qu'on regarde.
Allez, ce quatrième chapitre va être consacré à deux phénomènes, deux chapitres, deux éléments qui sont ce qu'on appelle l'Adaptive UI et l'Adaptive Code, ou en français, le design adaptatif et le code adaptatif. On va voir un petit peu ce que c'est que ces principes, comment est-ce que Microsoft rend les choses un petit peu plus faciles, quels sont les outils des SDK et avec pas mal de samples derrière. Première étape, savoir quelle est la différence entre les deux, hein, puisque il y a quand même une certaine corrélation entre les deux, mais il faut savoir que l'Adaptive UI, ça permet vraiment de s'adapter aux différents écrans, aux différentes résolutions, et l'Adaptive Code, c'est plutôt s'adapter aux différents périphériques, aux différentes familles de devices et aux différentes fonctionnalités qu'embarque chacun de nos périphériques sur, par exemple sur Windows Mobile, le fait d'avoir ne serait-ce que les boutons back, les boutons hardware. Donc voilà un petit peu la différence de syntaxe entre les deux.
Donc vraiment sur le design et l'autre sur le fonctionnel.
Exactement. Évidemment, pourquoi est-ce que l'on parle de ça? Parce qu'on l'a vu sur les précédents chapitres, on sait qu'aujourd'hui, les familles sont composées de multiples périphériques. On a un seul Windows, un seul cœur qui tourne, mais on a besoin de s'adapter à différentes tailles d'écran. Et il faut dire que la taille d'un écran de téléphone n'est pas la même que celle du Surface Hub, par exemple.
84 pouces pour les plus grands.
C'est ça. Allez, parlons des interfaces adaptatives. Pour ceux qui ont déjà Windows 10, qui ont déjà testé même Visual Studio 2015, qui ont tenté de faire un projet Windows 10, force est de constater que lorsqu'on fait une nouvelle application, c'est un peu le désert. Hein. C'est-à-dire que sur Windows 8, on vous avait fourni pas mal de templates, sur Windows 10, il n'y en a pas.
C'est la page blanche.
C'est la page blanche, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Alors derrière tout ça, il y a, on va dire que c'est voulu, c'est-à-dire que globalement, ce n'est pas un retard ou ça ne va pas arriver ultérieurement, c'est que vraiment on avait l'envie que vous réalisiez vos propres interfaces, vos propres designs, etc. Parce que c'est vrai que sur Windows 8.1, on avait vite tendance à avoir le même type d'application avec les gabarits par défaut.
Il y avait des applications qui se ressemblaient, il y en avait quand même pas mal.
Voilà. Et finalement, l'effort de créativité était un petit peu absorbé par le fait d'aller plus vite dans nos réalisations. Ce qui fait que, bon, il y avait un avantage, c'est que l'utilisateur se reconnaissait. Après, l'inconvénient, c'est que c'était un peu toujours pareil, quoi. Cependant, si jamais vous êtes un petit peu bloqué, rassurez-vous, il existe de plus en plus de samples sur le GitHub Microsoft, voire des GitHub de gens de la communauté qui fournissent pas mal d'éléments. Et tout ça évolue. On voit encore aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce cours, des nouvelles idées qui sortent sur les applications qui vont même faire partie du bundle de base de Windows 10 Mobile. Hein. Je pense notamment à l'application Musique qui a changé encore de design. Donc voilà, tout ça évolue. Donc n'hésitez pas à être créatif. Et c'est pour ça que finalement l'application est blanche. Bien, un chiffre magique, alors ça tous les designers connaissent. Michel Rousseau, qui est notre designer préféré, saurait mieux en parler que moi, mais c'est vrai que le chiffre 4, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, qui sont notamment les tailles de. Les icônes, c'est toujours un multiple de 4 sur les espacements, les marges, etc. Donc sans rentrer trop dans le détail, sachez qu'en général, quand vous êtes sur un multiple de 4, c'est que c'est plutôt pas trop mal. Je vais parler aussi de quelque chose que l'on a mis en place, qui est ce qu'on appelle l'algorithme de mise à l'échelle, donc le scaling algorithm. Globalement, c'est dire quoi? C'est que bien, lorsqu'on regarde un Windows mobile, un téléphone, hein, quel qu'il soit, on est beaucoup plus proche de l'écran que lorsqu'on regarde une télé qui est beaucoup plus loin. Donc finalement, lorsque l'on regarde une image, eh bien, quand on est loin ou quand on est près, pour qu'on ait l'impression qu'elle soit à peu près de la même taille, qu'on ait le même rendu visuel, la même impression, eh bien, il faut plus ou moins la grossir. Et donc, par défaut, dans UWP, dans la plateforme universelle, on a mis en place cet algorithme de mise à l'échelle avec une technologie qu'on appelle l'effective pixel, dont on va parler juste après, qui permet finalement d'avoir ce rendu plus intense, plus grand, plus gros, plus petit, suivant la distance et suivant le périphérique que l'on adresse. Un petit exemple, si jamais vous décidiez, par exemple, dans une application de faire, on va parler de typo, de faire du Segoé 100 points ou 24 points, eh bien, lorsque vous êtes sur différents types d'écrans, vous voyez ici, là, je suis sur un écran, un grand écran, une tablette ou un téléphone, vous voyez par exemple que votre carré a des tailles de 200 pixels sur l'un, 150 ou 100 jusque sur Windows Phone, mais quand bien même, si jamais on les regarde finalement en axe de profondeur, eh bien, si on regarde ces écrans-là, donc maintenant je vais vous le montre, on va dire, face à face. Là, sur cet écran-là, imaginez que l'écran qui est au fond est vraiment à une distance beaucoup plus loin que mon téléphone. Eh bien, on a vraiment l'impression que la typo est la même. Eh bien, c'est cette fameuse mise à l'échelle et cette technique d'effectif pixel qui nous permet d'avoir ce rendu-là. L'effectif pixel, c'est quoi? C'est finalement prendre un pixel physique, un vrai pixel, et le grossir à une taille supérieure quand finalement la typo a besoin d'être plus grande quand on se situe sur des appareils qui sont situés beaucoup plus loin dans notre champ de vision. Voilà.
Donc, il y a quoi? Il y a des plateaux de résolution, du coup?
Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, l'effectif pixel, c'est ce bouton vert-là. Du coup, alors, je vais revenir sur comment ça fonctionne, mais sans vouloir trop rentrer dans les détails, globalement, sachez que par défaut, vous travaillez déjà en effectif pixel quand vous faites du XAML. Mmh. Voilà, dès que vous mettez une typo de 24 points, par exemple, eh bien, sachez qu'en c'est 24 points en effectif pixel et que votre typo sera plus grande quand elle sera sur un Surface Hub et elle sera plus petite quand elle sera sur un Windows Mobile. Petite exception à ça, donc quand on parle de XAML, on parle souvent de vectoriel. Hein, quand on parle d'image, eh bien forcément, les images, eh bien, c'est un petit peu particulier. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est de fournir des images à différentes résolutions avec des nomenclatures un petit peu particulières, hein, le tiret scale, etc., qui va permettre de mettre ces images lorsqu'on est sur un Windows Mobile ou sur un écran avec des résolutions qui sont plus grandes. Donc l'image étant un petit peu le cas que vous devez gérer. Pour tout le reste, en général, alors je dis bien avec précaution, ça aussi, en général, vous n'avez pas besoin de le gérer. Mais rien ne vous empêche de tester et d'adapter un petit peu.
Donc, c'est le système qui agrandit automatiquement vraiment ce qu'il y a à l'écran. Quoi.
Exactement. Justement, pour planifier le design, comme tu le disais, on a beaucoup de tablettes, on a beaucoup de téléphones, on a beaucoup de résolutions. En général, on dit que lorsque vous testez vos applications, le mieux, c'est de tester sur des téléphones 5 pouces, sur des tablettes 8 pouces, sur des PC portables 13 pouces, un peu comme celui qu'on a aujourd'hui sur le plateau. Et globalement, vous êtes à peu près bon sur toutes les résolutions. Si vous êtes capable de tester sur plus de résolutions, tant mieux. Mais déjà, ces trois-là sont des résolutions, on va dire, les plus généralement trouvées.
Les plus standards.
Les plus standards. Bien. Et à quoi ça correspond tout ça? En effectif pixel, ça correspond à des tailles de 1024 pixels, 720, 548 et 320. Ça, c'est quand même des valeurs qu'on retrouve assez souvent et que l'on connaît en général. Hein. Et vous voyez que par exemple, pour l'application Mail, qui est celle que l'on voit, en 1024, on a trois colonnes avec le menu sur le côté. Dès qu'on descend à 720 pixels, on n'a plus que deux colonnes, là où on gère le mode paysage et portrait. Et quand on arrive sur téléphone, on n'a plus qu'une seule colonne où on a finalement les mails, les principaux mails. Hein. Voilà là-dessus. Donc, comment est-ce que tout ça fonctionne? Eh bien, il va falloir s'adapter à la résolution, s'adapter au changement d'orientation et surtout faire confiance, avec parcimonie, à l'algorithme de mise à l'échelle, le scaling algorithm. Voilà encore un exemple. Je passe assez vite parce qu'on l'a déjà vu dans les précédents chapitres. Sachez que pour gérer ce cas-là, sur l'application Skype, eh bien, on a utilisé les Visual State et les Adaptative Trigger et un Relative Panel que l'on a vu en chapitre 2 pour justement eh bien, placer les boutons correctement, 4 et 1 en dessous en mode portrait pour Windows Mobile et 5 alignés quand on est en mode paysage. Okay? Donc tout ça, c'est ce que l'on va voir maintenant. Et enfin, n'oubliez pas que si jamais votre design est trop complexe entre la plateforme Windows Mobile et la plateforme desktop, par exemple, vous pouvez toujours faire du design sur mesure, ce qu'on appelle du tailoring design. Et encore une fois, on va le voir un petit peu plus loin dans ce cours. Bien, si vous avez suivi les premiers modules, on a souvent parlé du Relative Panel en omettant un petit peu les Visual State, parce qu'on se le réservait un petit peu pour ça. Les Visual State, c'est quoi? Ça permet de définir des vues en XAML, ça permet de définir des transitions entre deux, alors le plus simple, c'est entre deux tailles d'écran. Imaginez que vous avez un écran alors qui fait, on va dire, je vais parler en pixels, qui fait moins de 600 pixels et plus de 1024 pixels, mais vous aimeriez forcément que votre Relative Panel eh bien, change les dispositions des éléments. Et c'est grâce à ces Visual State que l'on va réussir à créer ces transitions. Alors ça existait déjà, hein, le Hallway l'ancienne façon, ce qu'on avait l'habitude d'utiliser, eh bien, c'était d'utiliser ce qu'on appelle un Visual State Manager que vous avez en bas et qui permettait, eh bien, par le code, d'aller d'un état à l'autre. Donc ça, avant, on était obligé de le faire par le code. On déclarait nos Visual State en XAML et on allait par le code pour faire changer et évoluer ces éléments.
Bien, mais pas très pratique.
Alors, il y avait quand même des SDK, des développements de la communauté qui permettaient d'encapsuler tout ça. Mais par défaut, en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on a donc créé ce qu'on appelle les Adaptive Triggers. Ce sont des déclencheurs que l'on va mettre directement dans le code XAML pour pouvoir déclencher des changements de vue par rapport à
une résolution donnée.
Donc vous avez par défaut ce qu'on appelle un adaptive trigger qui permet de dire, eh bien, dès que je dépasse min, width, height, une taille de, dans ce cas-là, 500 pixels, je change certaines choses, 501 pixels, et pareil pour la largeur. Okay. Et qu'est-ce que je change? Eh bien, je change par exemple, grâce au setter, la taille de ma fonte, le comportement de mon image qui va devenir uniforme, et la taille de cette image-là, par exemple.
Donc, je change vraiment dynamiquement les propriétés exactement en fonction de la résolution de mon application.
Donc, comme vous l'avez compris, on va lier ça avec ce fameux Relative Panel, ce qui va permettre de changer directement les propriétés Relative Panel above, write off, etc. pour justement avoir le même comportement qu'on a vu sur le screenshot précédent où on va changer les boutons de ligne, par exemple. Allez, on va faire une démo sur comment construire une adaptative UI, une interface adaptative, et on va plus particulièrement s'intéresser au Visual State puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas montré encore. Alors, pour vous montrer un petit peu une application, donc ici, alors je vais la lancer. Alors, je lance, donc ça build. Voilà, ici une application classique.
C'était délicieux.
Exactement. Ici, donc là, je peux. Donc ici, j'ai des modules que je peux modifier. Tu vois que je vais sur une autre page sur laquelle je peux modifier le titre, par exemple, en cours. Sur lequel je peux prendre une photo, hop, soyons fous, si j'y arrive, coucou, et voilà, j'accepte, ok, et voilà, et lorsque je reviens ici, j'ai mon élément qui est affiché. Bon, ça c'est une interface qui n'est pas adaptative encore. Par exemple, tu vois, lorsque je rétrécis, eh bien, tu vois que, mis à part le texte, je n'ai pas grand-chose qui s'adapte. On pourrait imaginer peut-être enlever les étoiles, voire enlever l'image, pour que ça fonctionne plutôt bien sur un téléphone. Et lorsque je suis en plein écran, c'est dommage ici de perdre tout cet espace, ouais, alors que je pourrais aller récupérer ici ce petit contrôle.
C'est vrai que ce n'est pas très gracieux. Quoi.
De passer d'une page à l'autre sur Windows Mobile, ça me paraît cohérent, mais sur desktop, on pourrait un peu améliorer les choses. Alors, pour te montrer un petit peu le code, ici, j'ai une main page, si tu vois sur mon explorateur ici à droite, et j'ai cette to-do editor page. Sur la main page ici, sur cet élément-là, sur ma list view, j'ai ici un data template qui décrit globalement dans une grille, le comportement de chacune des lignes. Je vais donc rajouter ce fameux Visual State. Mais pour faire ça, il va falloir, comme je suis dans un data template, il va falloir que j'extrais ce contrôle-là et que je le mette dans un user control pour pouvoir y affecter un Visual State. Et je ferai la même chose pour ma to-do editor page, pour tout ce qui se trouve ici, dans cette grille-là, dans ce scroll viewer, donc tout ça, pour pouvoir après y affecter un Visual State. Alors, je te montre directement la solution pour aller plus vite. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc, tu vois qu'ici, je me retrouve avec mes deux pages plus mes deux user control. Dans ma main page ici, tu vois que j'ai remplacé dans la list view l'item template par mon user control, qui est finalement un gros copier-coller. Vraiment, c'est extrêmement simple.
T'as juste encapsulé un petit peu.
J'ai juste encapsulé tout ça. Et tu vois que j'ai rajouté le visual state ici. Je vais te l'écrire. Donc, ça, c'est ma grille, donc rien d'extraordinaire. Et que dit mon visual state? Il dit globalement, ici, donc, j'ai créé un groupe, peu importe le nom. Surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un adaptive trigger quand la taille est minimum de 500 et un adaptive trigger quand la taille est de minimum de 1 pixel.
D'accord, tout le reste.
Donc 500, c'est la valeur par défaut parce que quand je démarre mon application, je lui demande de prendre une taille de 500. Et du coup, personnellement, j'aurais tendance même à quand même y affecter les valeurs. Mais pour l'exemple, je montre qu'on est capable de ne pas le faire. Mais moi, perso, je les mets comme ça au moins. Elles sont présentes, voilà. Je sais les lire et tout, il n'y a pas de problème. Et ici, qu'est-ce que je vais faire dans les setters? Tu vois, quand je passe en dessous de 500 pixels et au-dessus de 1 pixel, j'enlève l'image et je raccourcis la taille maximum que peut prendre le text block.
Okay. Okay.
Ce qui sera finalement le plus visible dans notre exemple, c'est l'image qui va disparaître. Et après, sur ma to-do editor page, tu vois ici ce que j'ai fait. Eh bien, je suis allé la chercher. Donc, laisse-moi la retrouver. Il faut juste que j'aille la chercher. Elle est ici. Tu vois ici, toujours pareil. J'ai créé un user control. Donc, ce user control, il est ici. Il encapsule toujours pareil eh bien, ce que j'avais avant dans une page complète. Donc là, c'est un user control qui a, sur lequel il y a juste la grille et sur lequel j'ai un relative panel. Mais comme ce ne sont pas les propriétés du user control à l'intérieur que je veux animer, mais le user control lui-même sur lequel je vais l'afficher ou le cacher, donc j'ai mis ça directement dans la main page. Hein. Okay. Et dans la main page, ici, tu vois, j'ai un visual state qui doit être au tout début. On les déclare toujours au début. Hein. C'est toujours la première chose qu'on déclare dans les ressources d'une grille, par exemple, c'est le visual state. Et ici, tu vois que ma to-do list, eh bien, je peux lui dire de prendre tout l'espace de ma grille et de mettre ce fameux user control qui présente les détails de l'image en visibilité collapse, c'est-à-dire qu'elle n'est plus présente sous mon interface, ou alors, quand je suis au-dessus de 800 pixels, eh bien, au-dessus de 1200 pixels, par contre, lui dire de s'afficher. Encore une fois, c'est de la valeur par défaut.
Okay.
Et donc, du coup, lorsque j'exécute tout ça, tu vois que ça change un petit peu. Lorsque je suis sur eh bien, un écran qui est au-delà de 1200 pixels, du coup, je suis un peu peur parce que j'ai peur qu'avec la résolution
qu'on a là, ça va être un petit peu… On va voir.
Tu vois, ça passe, c'est nickel. Donc, tu vois, ça passe. Donc là, j'ai bien effectivement sur le côté mon élément. Et quand je rajoute ici une tâche, donc module 4 en cours, je rajoute, ici j'ai bien tout ça, donc je peux toujours prendre une photo, etc. Et si jamais ici tu vois que je commence à réduire, un, j'ai mon élément qui disparaît, et deux, j'ai mon image qui disparaît. Et voilà.
Nickel. Par contre, est-ce que Michel a validé vraiment le choix de ses couleurs
non,
dans cette application
tout.
On est bien d'accord.
Non, Michel n'a pas. je ne montrerai même pas à Michel cette application, c'est pas possible. Et tu vois, malgré le fait que j'ai fait disparaître cet élément ici, je peux toujours le retrouver en allant cliquer. Donc là, on sent bien qu'on a un comportement quand je suis petit sur Windows Phone et un autre comportement quand je suis un peu plus grand sur une application plus desktop.
D'accord. Voilà. Donc, assez pratique. Donc ouais. Vraiment, finalement, l'équivalent des media queries.
Exactement.
Voilà, en
mais
HTML.
Non validé par Mitch.
Oui.
Allez, donc ces déclencheurs, ben, vous avez l'adaptive trigger. Eh bien, sachez que ces déclencheurs, vous pouvez créer vos propres déclencheurs. On appelle ça des custom triggers. Pour aller très vite, c'est quoi? Même l'adaptive trigger fait partie de cette catégorie. Ce n'est rien d'autre qu'une classe qui hérite de state trigger base. Et globalement, on va lui dire quand il devient actif ou pas en appelant une méthode de cette classe par défaut qui s'appelle setActive, vrai ou faux. D'accord. Donc, pour vous montrer tout ça, vite fait, alors là, encore une fois, ce sont des exemples que vous pourrez récupérer facilement sur notre GitHub. Donc, je vais récupérer le custom trigger. Je ne vais pas lancer la démo plus que ça. Je vais juste vous montrer, enfin, si j'ai une petite démo, mais je vais juste vous montrer ce qu'on est capable de faire, qui est assez sympa comme custom trigger. C'est vraiment une facilité d'utilisation. On voit ici, par exemple, un truc qui est assez sympa, c'est l'adaptive trigger qui permet de donner du réseau, savoir si on a du réseau ou pas. Tu imagines que tu mets ça dans une interface XAML et tu as un bouton qui dit se connecter, se déconnecter ou griser, pas griser, suivant si je suis dans un état connecté, pratique. Pas connecté. Ça, c'est plutôt pratique. J'en ai un que j'aime bien, qui est l'orientation, si je suis en mode paysage ou en mode portrait. Donc voilà, exactement la même chose. Du coup, ici, je vais appeler Application View Orientation, qui me donne si je suis en paysage ou en portrait, et je vais pouvoir automatiquement m'adapter. Vous en avez d'autres, hein, Input Type Trigger, Device Family, on va en parler un peu plus tard,
ouais.
De ce genre de choses qui sont assez sympas. Et vous voyez, c'est vraiment peu de code à écrire. Hein. Encore une fois, tout dépend de la complexité, mais c'est assez simple. Et vous voyez, cette orientation de trigger, eh bien, je le retrouve ici. Et globalement, ici, j'ai mon trigger ici, qui dit lorsque je suis en landscape ou lorsque je suis en portrait, eh bien, j'affiche, ici l'application c'est deux rectangles, un rouge, un bleu, le rouge est affiché quand je suis en portrait et le bleu dans l'autre sens. Et très simplement, voilà quoi ça ressemble quand ça s'exécute. Tu vois ici, là je suis en mode, on va dire, dans un mode portrait, quand je passe en paysage, hop, c'est le rouge qui apparaît.
Ok. Voilà.
Encore une fois, non validé par Mitch.
Donc finalement, ça laisse quand même pas mal de possibilités ouais. Pour ces développements.
Exactement.
Donc, ton premier exemple que tu montrais tout à l'heure dans les slides, là, c'était pour finalement déclencher un trigger en fonction de la famille sur laquelle on était, donc Windows Phone ou desktop.
Là, tu vois, c'est ce fameux exemple que vous avez sur l'écran, c'est le Device Family Trigger qui permet de dire sur quel type de famille je suis. Quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, je voulais montrer, on passe à la suite. Et enfin, on a parlé, donc là, ça c'est pour le design adaptatif, on a parlé de ces fameuses vues sur mesure. Sachez que si vraiment, comme on l'a vu sur l'application calendrier, si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir avec l'adaptative UI, vous pouvez faire ce qu'on appelle des vues suivant les différentes familles. D'abord, vous pouvez l'appeler par code. Donc, vous avez ici le code qui est globalement appelé le ressource context pour la vue courante et avoir le qualifier values qui va vous renvoyer une chaîne de caractères qui dit device family Xbox, device family desktop, etc., mobile, etc. Et à partir de là, vous pouvez eh bien naviguer sur telle ou telle page. D'accord, d'accord. Donc, vraiment par code.
Donc ça me permet par exemple, si j'ai envie de gérer sur mon téléphone la navigation en utilisant un contrôle pivot, par contre si sur mon desktop je veux rester avec la navigation avec un split view, eh ben, là c'est vraiment approprié. Quoi.
Exactement.
Okay.
Et après vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des vues XAML, ce qui évite d'écrire du code pour pouvoir faire ça, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors les vues, eh bien ici j'ai un sample encore une fois que je vais vous montrer, parce que sample, on ne peut pas creuser.
Dédicace à Étienne.
Dédicace à Étienne.
Il faut toujours mettre le copyright sur les blagues.
Ouais, surtout celle-là. Il va falloir remonter un peu en arrière dans le flux vidéo si vous voulez la comprendre. Moi, j'ai mis un peu de temps. Donc ici, globalement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai une main page dans laquelle, eh bien, j'ai... regardez bien. Main page, derrière, mais ça, vous n'êtes pas étonné de voir ça, j'ai un code C Sharp. OK. Et ici, j'ai ce code a été mis dans un code commun. Et lorsque je veux vraiment faire une main page qui est vraiment différente suivant telle ou telle famille, eh bien, je vais rajouter ici des vues. Et ici, j'ai un répertoire qui a vraiment une syntaxe particulière qui s'appelle device-family-desktop, dans laquelle, eh bien, j'ai une main page. Mais regardez, c'est une vue, il n'y a pas de code C# associé. OK. Et ce code-là, eh bien, vous voyez qu'ici, dedans, j'ai un text block qui dit que je suis sur la version desktop. Et après, j'ai la même chose pour mobile, dans lequel j'ai, eh bien, on va dire, un texte qui est fait pour la version mobile. Alors, avantages et inconvénients. Avantage, vous avez vraiment des vues qui sont différentes suivant les familles. Inconvénient, il faut vraiment que vous sachiez gérer les contrôles que vous allez mettre dans chacun de ces trucs-là, de ces vues-là, pardon, parce que vous allez avoir besoin eh bien, de les gérer dans une seule classe qui est mainpage.cs.
Il n'y a qu'un seul code C# qui partage tout ça.
Exactement.
D'accord.
Tiens, petite astuce, si vous ne vous rappelez pas de ces noms-là, vous avez un petit add-in que j'ai installé qui a été fait par un MVP francophone qui
s'appelle de la
Olivier,
communauté.
Membre de la communauté. Donc merci Olivier, qui s'appelle Olivier Matisse. Un petit peu de pub pour toi Olivier. Cet add-in, pardon, cette extension. Donc vous allez la chercher ici. Hein. Alors tools.
C'est
extension
c'est,
update.
Voilà,
elle s'appelle Device Family Adaptive XAML Tool.
D'accord. Donc elle est vraiment une extension à Visual Studio.
Elle est vraiment extrêmement simple, mais moi, quand je l'ai vue, je suis venu fan de suite parce que ça m'a bien simplifié la vie. Je t'avoue que chaque fois, je cherche les noms. Et ici, imaginons que vous ayez. Alors, j'ai mis View, mais oh, bon, je vais faire un nouveau répertoire. Je vais appeler View for the test. Hein. View test, voilà. Et c'est dans ce répertoire-là, pardon, je vais quand même essayer d'écrire correctement, que je veux mettre mes fameuses vues. Et bien, après avoir installé l'add-in d'Olivier, je fais clic droit. Soit je rajoute un folder classique parmi les quatre déjà existants, soit je les rajoute tous et automatiquement ça me rajoute mes quatre répertoires. Voilà. C'est so simple mais tellement indispensable.
Et il y en a d'autres qui arriveront un jour ou l'autre.
Oui, exactement. Alors, voilà pour cette démonstration-là. Je peux l'enregistrer, pourquoi pas. Et on continue sur... Donc on a vu l'Adaptive UI, on va maintenant parler de l'Adaptive Code. On l'a un petit peu regardé aussi dans les précédents chapitres, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on appelle les plateformes Extension SDK. Donc ça, encore une fois, sur Windows Universal, vous avez différentes familles dans lesquelles on regroupe les tablettes, les phablettes, les phones pour la version mobile, Xbox a sa propre famille, etc. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire, comme on l'a vu, c'est de dire, eh bien, chaque fois que vous avez... d'abord, vous avez Windows Core qui fonctionne sur tous les devices, mais dès que vous voulez utiliser une API particulière pour le téléphone, par exemple pour le hardware bouton, pour le bouton back, eh bien, il faut rajouter ce fameux SDK que l'on va ajouter à notre projet. Sachez que malgré tout, donc vous les avez dans Add Reference, malgré tout, si jamais vous rajoutez ce SDK, vous pouvez le rajouter pour toutes les plateformes que vous ciblez, et ce n'est pas parce que vous l'avez rajouté que ça va inférer, que ça va annuler la...
Ça n'invalide pas le code.
Ça n'invalide pas le code, exactement. C'est ce qu'on est en train de dire. Et après, une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la Windows Foundation Metadata API Information, qui va permettre de récupérer si le type est présent ou pas sur n'importe quel élément qui ne ferait partie que d'une seule plateforme.
On fait un check.
Voilà par exemple ici le morceau de code que l'on doit écrire quand on veut vérifier eh bien, que l'API hardware de bouton est présente ou pas. Si on est sur téléphone, on passera bien à la boucle. Dans le code du if, pardon, sur le vrai, sinon on sortira directement. Et il n'y aura pas de plantage si vous êtes sur la version bureau, ce code-là continue à fonctionner. Alors, Certains. Alors, est-ce que. Non, attendez. Du coup, je vais rester là-dessus pour en parler. Sur la version Windows Phone 8, c'est important de le savoir, sur Windows Phone 8.1 et Windows 8.1, c'était des directives de compilation avec des DSDefined. Exactement. Et c'était à la compilation qu'on enlevait le code qui n'allait pas pour pouvoir eh bien, vraiment avoir un binaire pour chacune des plateformes. Aujourd'hui, comme on n'a qu'un seul package, sans parler de binaire, qu'un seul package, eh bien, il faut que l'on fasse ces tests au runtime. D'accord. Qui dit faire des tests au runtime sur une chaîne de caractères, forcément, il va y avoir un petit peu de réflexion. Mais sachez que c'est pas grand-chose, parce qu'en général, on ne fait pas ça sur des boucles ou sur 1000 éléments, par exemple. C'est quelque chose que l'on fait lorsqu'on arrive sur la page, au chargement de la page, c'est tellement minime par rapport au reste que la perte de performance, si infime soit-elle, n'est pas décelable, on va dire. Mais sachez-le. Ce qui est pas mal, par exemple, ici, c'est de faire ça sur, tu vois, sur l'app.xaml.cs, le faire une fois au démarrage et pas forcément sur toutes les pages. Tu vois, si on peut donner 2-3 conseils dans ce genre-là. Mais globalement, si je reviens sur ce truc-là, donc là, Windows.phone, c'est facile à comprendre. Mais si jamais vous utilisez toutes des API, comment vous allez savoir finalement qu'il faut absolument que je fasse un test dessus? Si chaque fois que j'appelle une API, il faut que je fasse un test, si je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Donc d'abord, vous avez la documentation MSDN. Vous pouvez voir l'Object Explorer aussi dans Windows, dans Visual Studio pour voir ça. Et sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un analyzer, que l'on va rajouter à notre projet Windows 10, en rajoutant un package nugget qui s'appelle Platform Specific Analyzer, qui va rajouter un analyzer à notre projet et qui va nous dire, qui va juste mettre dans l'IntelliSense eh bien, un trait vert en disant attention, l'API que tu essaies d'utiliser, il faut faire un check dessus.
Ouais, parce qu'elle n'est pas compatible avec toutes les plateformes.
Exactement, et ça c'est super pratique. Je te montre vite fait un sample là-dessus. Donc je vais ouvrir un nouveau Visual Studio pour aller récupérer le reste. Je vais en profiter pour fermer cela peut-être. Le voilà. Donc Open Project, Adaptive Code, Démo. Hop, c'est celle-ci. Alors si je ne me suis pas trompé, j'ai dû rajouter déjà un analyzer. Donc ici, tu vois, sur mes références ici, j'ai rajouté l'analyseur Platform Specific Analyzer. Je n'ai juste fait qu'ajouter ici un package NuGet.
D'accord.
D'accord. Donc ici, vous mettez Platform, je pense d'ailleurs, je dois même encore l'avoir dans l'IntelliSense. Voilà. Platform Analyzer, pardon, pas PL. Et vous l'avez ici. Hein. Okay. Donc double clic, ça s'installe. Ça rajoute mon analyzer. Et automatiquement, mon IntelliSense ici, alors du coup, je vais revenir sur ma main page ici. Vous voyez ici, je vais utiliser une API qui s'appelle View Management Status Bar Hide. Status Bar, quand on a l'habitude, on sent que c'est pour...
C'est plutôt pour la partie voilà.
Mais si on ne le sait pas, du coup, sans l'analyzer, eh bien, je recevrai comme ça. Avec l'analyzer, tu vois que j'ai ici un warning qui me dit, tiens, attention, il faudrait que tu fasses attention parce que là, potentiellement, ça va planter. Et automatiquement, en plus, il te propose de la correction et tu peux automatiquement mettre ça pour ça.
Okay. Un gain de temps.
Et là, si je faisais un petit await, ça ne serait pas si mal. OK.
OK.
Si jamais tu veux être encore plus vigilant, tu peux tout à fait prendre ton analyzer ici. Donc, je vais repartir. Prends ton analyzer ici et lui dire, attention, dès que tu trouves quelque chose comme ça, eh bien surtout, alors il faut juste que je retrouve ce que c'est, tu ne mets carrément pas, non pas une information, mais carrément une erreur. Ce qui fait que ça évite même de compiler l'application. Donc là, normalement, ça va passer en rouge.
Peut-être que tu compiles. Voilà. Ah oui, non, même pas.
Ok, tu vois, même pas. Donc là, il faut vraiment que je corrige, parce que sinon, ça ne passera pas. Okay. Ça, c'est bien pour quand on a des projets où on sait qu'on sera forcément déployé sur les deux plateformes. Hein. Donc là, OK, bouge pas. Attention, Bilou, je rajoute. Et là, c'est bon, ça passe. Donc ce petit add-in,
indispensable.
OK. Donc voilà pour l'adaptive code. Donc important de l'utiliser. Et donc, je vous ai montré ça. Alors, il y a plusieurs choses. Je vous ai montré juste pour les types, mais sachez qu'on pourra aussi vérifier la version UWP sur laquelle on se trouve pour savoir quel est le type de version d'API que je veux utiliser ou pas.
Oui, parce qu'il y a peut-être des contrats qui vont se rajouter avec les différentes versions.
Exactement. Alors, okay. Aujourd'hui, pour l'instant, on a des contrats qui sont uniques, hein, puisqu'on est au début
de l'aventure.
Windows 10 et UWP, mais comme on le sait, tout ça va être mis à jour au fur et à mesure et vous pourrez gérer en tout cas ce
versionning.
Voilà. Okay. Autre chose que l'on peut faire, c'est évidemment dire que telle application, vu qu'on n'a qu'un seul store, qu'on n'a qu'un seul package, on va dire, quand on le déploie, il faut bien lui dire sur quel type de périphérique je peux me déployer. Eh bien, ici, on pourra dire, eh bien, ce n'est que pour tel. Que, quand c'est universal, c'est pour tout le monde. Quand c'est desktop et universal, c'est pour la version desktop, pour telle version, minimum et maximum, et sinon pour tous les autres. Et voire pour la dernière ligne, uniquement que pour le mobile. Okay. Ça, c'est plutôt pas mal. Voire même rajouter des dépendances, mais c'est toujours pareil dans le fichier manifeste, des dépendances qui vous seraient utiles. On a fait un tour assez rapide de l'Adaptive UI et l'Adaptive Code, mais qui sont vraiment des éléments qui vont être primordiaux dans le développement de vos applications IWP et qui vont vous permettre d'avoir une expérience d'une seule application, un seul projet, que vous aurez autant sur votre bureau, sur votre mobile. PC bureau ou que votre PC mobile, et demain Xbox,
HoloLens.
Et HoloLens.
Voilà, on verra ça bientôt.
On se retrouve bientôt, tout à l'heure, pour un prochain chapitre. D'ici là, bon visionnage et à tout de suite.
À bientôt.